Je ne vais pas parler d'antiquité péruvienne au sens des antiquités péruviennes, par exemple, que ramène un explorateur français, Charles Wiener, qui voyage au Pérou dans les années 1870 et en Bolivie, qu'il ramène et qui vont former avec les antiquités américaines du Louvre, qui vont former le fond du musée ethnographique du Trocadéro. Concrètement, je ne vais pas parler d'objets. Hein, ce n'est pas les antiquités au sens que l'on peut avoir, que l'on peut donner au terme depuis le XIXe siècle. Donc j'espère que vous n'êtes pas déçus, que vous n'attendiez pas à ce que je parle d'objets, parce que ça ne va pas être le cas. Pourquoi ce terme-là alors? Parce que c'est le terme qu'on utilise, qu'on trouve dans les textes d'époque, en espagnol évidemment. Donc j'ai pris juste deux exemples. La relation des antiquités de ce royaume du Pérou, donc d'un auteur indigène du début du XVIIe siècle. Je prends encore un autre exemple qui est du Mexique cette fois, mais qui est un petit peu plus proche de la période dont je vais parler, qui sont les antiquités de la Nouvelle-Espagne du médecin de Philippe II, Francisco Hernández, qui est des années 1573-1576. Qu'est-ce que ça veut dire antiquité? Donc là, je prends une petite citation. Donc c'est une lettre que cet auteur, Francisco Hernández, envoie au président du Conseil des Indes. Il va dire qu'il va parler donc de l'histoire naturelle, hein, les plantes et les animaux, mais également de las antigüedades de esta gente, les antiquités de ces gens. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc, concrètement, les rites, coutumes, ce sont d'autres termes qu'on va trouver à l'époque, qu'il a su en interrogeant, donc, por relación de estos indios viejos he podido averiguar, en interrogeant les plus âgés des Indiens. Qu'il a pu trouver. Donc c'est un sens. Donc là, le terme qu'utilise Hernández n'est pas de lui. Il vient, c'est tout simplement ce qu'attend le Conseil des Indes et son président Juan de Obando. Je cite une autre. Donc un extrait donc du Código Andino, c'est-à-dire du code des qui suit la réformation du Conseil des Indes dans les années 15, au début des années 1570, où il est précisé, donc déjà il est créé un poste de chroniqueur et de cosmographe des Indes, et il est précisé qu'il doit écrire donc l'histoire générale des habitants des Indes, hein, de la historia general des Indes, avec la plus grande précision et vérité qu'il puisse, mais également l'histoire des coutumes, des rites, des antiquités, des faits, événements, etc. Donc, un terme qui est utilisé durant tout le XVIe siècle, dans toute l'époque moderne, pour évoquer finalement tout ce qui concerne l'histoire préhispanique, l'histoire des Indiens et du Pérou, en l'occurrence, dont je vais parler moi. Juste pour terminer sur ça, c'est un sens qui coexiste encore au XIXe siècle. Je pense aux Antiquities of Mexico. Bon, c'est un recueil énorme fait par un lord irlandais qui va collecter, publier pour la première fois des codex mésoaméricains, mais également, donc là on a vraiment le terme, et cette fois en français, c'est pas moi qui traduis, Antiquité péruvienne, donc qui est publié à Paris en 1850, où je lis pas tout, hein, mais il est question de description des ruines, des idoles, autres ouvrages de l'art, c'est-à-dire des objets, mais aussi, hein, l'histoire, la description des institutions politiques, du système religieux, des cérémonies, des sciences et des arts, etc. Donc c'est ce sens plus large, hein, que moi que j'utilise ici, et il m'a semblé important de le préciser d'emblée. La deuxième petite précision que je voulais apporter, donc ça, Alexandra m'a facilité la tâche puisqu'elle l'a déjà évoqué, c'est que donc moi j'ai soutenu cette thèse, je redis pas le titre, vous l'avez déjà entendu. Mon objectif dans ce travail-là, c'était en utilisant comme fil conducteur donc ce personnage, Juan de Betanzos, qui est bon, un Espagnol, qui est interprète, c'est-à-dire il est un des rares Espagnols qui maîtrise le quechua, donc la langue des Incas dans le Pérou de l'époque. Il est marié avec une princesse Inca, et donc c'est en utilisant ce cas Betanzos comme fil conducteur, j'ai tenté de comprendre deux choses. D'une part, le processus de transition du monde préhispanique au monde hispanique, c'est-à-dire, si vous préférez, la prise de contrôle du Pérou, hein, comment s'est faite la prise de contrôle du Pérou par la couronne espagnole, et comment s'est construite la société coloniale péruvienne. Et le deuxième point qu'a abordé Alexandra tout à l'heure, donc je me suis intéressé à la question au rôle de l'écriture de l'histoire et de l'écriture de l'histoire préhispanique dans ce processus. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va écrire l'histoire du Pérou, de l'Amérique préhispanique, et pourquoi, comment aussi, cette histoire de l'Amérique préhispanique permet de construire la société coloniale. Donc, je disais, je suis très content d'être ici et qu'Alexandra m'ait invité à parler. Donc, évidemment, quand elle m'a proposé de parler, j'ai accepté d'emblée, d'abord parce que ça aurait été indélicat de refuser, mais non, plus sérieusement, tout simplement parce que, pour moi, le séminaire était l'occasion de poursuivre la réflexion que j'ai entamée dans ma thèse, de la poursuivre, donc évidemment en lien avec le thème du séminaire. Donc, ces informations sur le Pérou préhispanique qui sont recueillies par Betanzos et ses collègues, qui sont indispensables pour construire la société coloniale, comment est-ce qu'elles circulent? Alors déjà, est-ce qu'elles circulent? Donc, évidemment, oui, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui circulent à cette période-là, mais quelle partie de ces informations circulent, jusqu'où, qui les fait circuler, hein, évidemment, elles ne circulent pas toutes seules, c'est assez évident, hein, et dans quel but est-ce qu'on va les faire circuler. Donc c'est un petit peu ce que je me propose de faire dans le temps qui me reste. J'ai pas eu tout regardé, on me fera signe éventuellement si je parle trop. C'est ce que je propose de faire cet après-midi, donc essayer de répondre à ces questions, et donc à la question de la circulation du savoir sur le Pérou préhispanique, mais avant d'étudier la circulation du savoir sur le Pérou préhispanique, je dois expliquer brièvement comment est-ce qu'il s'est constitué. Donc je vais dire deux mots sur comment c'est constitué. Donc présenter, si vous préférez, la chronologie du processus d'écriture de l'histoire préhispanique au Pérou. Et évidemment, justifier en quoi les antiquités péruviennes constituent un savoir stratégique. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai mis dans mon titre. Donc en quoi elles vont constituer un savoir stratégique pour la couronne espagnole, mais aussi, on va le voir, pour une série d'institutions et d'individus, ou du moins une institution et quelques individus. Donc, je vais me centrer sur la période 1530-1550, et c'est très bien parce que du coup, ça prend un petit peu le relais de ce qu'a dit Fiona avant, en me permettant de dépasser un petit peu parfois, voir si j'ai le temps, beaucoup en conclusion, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc je voudrais d'ores et déjà insister sur la difficulté, hein, pendant cette période initiale à écrire l'histoire préhispanique du Pérou. Donc vraiment une entreprise qui est extrêmement difficile. Et je voudrais citer une source qui m'a beaucoup servi, un livre qui m'a beaucoup servi, qui est le dernier livre de Serge Grusinski, « La machine à remonter le temps », quand l'histoire s'est mise à écrire l'histoire du monde, où donc l'auteur va démontrer, donc c'est ce qu'on trouve dans le titre, hein, que l'arrivée des Espagnols en Amérique va mettre en route une véritable machine à remonter le temps. C'est-à-dire que les religieux, les fonctionnaires royaux, bientôt suivis par les nobles indigènes, puis par des métisses, vont entreprendre d'écrire l'histoire des mondes amérindiens, initiant ainsi un processus d'historicisation du monde dont, cinq siècles plus tard, on peut mesurer les effets. Donc, Ruzinski va parler en termes de capture des mémoires, c'est-à-dire écrire le passé des Indiens de l'Amérique, c'est capturer leur mémoire. Bon, c'est un aspect qui est intéressant. C'est pas celui sur lequel moi je vais me centrer. Moi, le point sur lequel je veux insister, en me basant sur mes recherches également sur la réflexion de Ruzinski, c'est également la difficulté de cette tâche, donc toujours d'écrire l'histoire des mondes amérindiens, la difficulté de cette tâche pour les premiers Espagnols qui s'y emploient. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'existe pas de sources écrites. C'est le problème face auquel vont se retrouver confrontés. Donc, le premier à écrire l'histoire préhispanique, c'est un moine hiéronymite, qui s'appelle Fray Ramón Pané, et donc qui est envoyé par Christophe Colomb en 1493, donc très tôt, auprès d'un cacique de l'Hispaniola, pour interroger les Indiens et noter tout ce qu'il peut. Donc évidemment, il ne maîtrise pas la langue, donc il faut qu'il l'apprenne. Et c'est un texte qu'on trouve très facilement, c'est même traduit en français, c'est assez drôle à lire, puisque ce moine fait au mieux son travail, mais à certains moments, il s'arrête, il se dit « bon, je suis désolé, mais là, je ne comprends plus. J'ai conscience que ce que je dis n'a pas beaucoup de sens, donc je vais passer à autre chose. » Donc c'est assez drôle quand on le lit, mais c'est vraiment la difficulté de réussir à mettre tout ça par écrit, quoi. Donc Ramón Pané, c'est le premier qui a le problème là. Ensuite, il y a, si on suit l'ordre chronologique, donc des franciscains qui au Mexique, à partir des années 1520, vont faire un travail assez énorme. Bon, tout ça c'est assez bien étudié, surtout la partie mexicaine. Et ensuite, à partir des années 1530, avec la conquête du Pérou, donc le problème va se poser au Pérou. Pourquoi ce problème de l'absence de sources écrites est si important ? Parce que, je cite, parce que j'aime bien la phrase de François Hartog, que l'historien en Europe, depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, est un lecteur. C'est-à-dire, l'historien, dans la culture européenne, est avant tout un lecteur. C'est le travail que vous faites vous aussi, vous commencez un sujet, vous allez voir la bibliographie, vous allez la lire. Donc là, la réalité américaine, c'est pas qu'il n'y a pas d'écriture, bon, il y a le cas des codex mésoaméricains, mais c'est une écriture, en tout cas, que les Espagnols de l'époque n'arrivent pas à décrypter directement. Ils n'arrivent pas à rentrer directement, il leur faut des intermédiaires. Donc cette réalité américaine va obliger les Espagnols à revenir à une enquête telle que celle d'Hérodote. C'est-à-dire une enquête où, je cite toujours François Hartog, « l'œil et l'oreille, l'autopsie et l'information orale sont mises à contribution ». C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à faire un travail, bon, des fois on trouve le terme dans l'historiographie, un travail ethnographique ou proto-ethnographique. Il y a quand même certaines différences entre le travail des missionnaires du XVIe siècle et les ethnographes du XIXe. Donc bon, en tout cas, c'est un travail vraiment d'investigation, d'enquête orale. Donc tout ça pour dire, donc pour insister sur la difficulté de la tâche en soi. Un processus fort complexe, je reviendrai dessus. Encore plus au Pérou, quand on connaît, je finis de planter mon décor, quand on connaît la situation la situation politique du Pérou, entre 1530 et 1550, globalement, ce sont 20 années de guerre. C'est quasiment continu, il y a très peu de moments de paix civile. Donc, guerre civile d'abord entre les Incas, avant même l'arrivée des Espagnols, entre les Incas Huascar et Atahualpa. Donc, guerre ensuite entre... puisque c'est Atahualpa qui sort victorieux, la faction qui a perdu alliée aux Espagnols contre Atahualpa, puis renversement d'alliance, bref, je ne rentre pas dans les détails, guerre entre des Espagnols et des Incas, guerre entre Espagnols, assez vite commencent des guerres civiles entre Espagnols, entre pizarristes et almagristes. Dans les années 1540, la rébellion des encomenderos, donc derrière Gonzalo Pizarro. Et encore, même au-delà des années 1550, vraiment un état de guerre civile soit latent, soit quasi guerre civile permanent. Donc qui, évidemment, rend encore plus difficile ce type de tâche. Alors, comment se constitue ce savoir sur l'Amérique, sur le Pérou préhispanique ? Assez rapidement, en fait, avant même la conquête du Pérou, la couronne va entamer une politique de collecte et de centralisation de l'information. C'est-à-dire, dès la conquête du Mexique, la couronne va donner des ordres pour qu'on recueille des informations. Alors, d'abord, d'ordre géographique et démographique, centré sur la Nouvelle-Espagne, mais assez rapidement, on va rajouter cette dimension ethnographique, pour le dire d'une certaine manière, et historique, et c'est étendu à l'ensemble de l'Amérique. Je voulais prendre un exemple, je vous dis, je n'ai pas eu le temps de traduire les citations, j'en suis désolé. Donc ça, ce sont des instructions qui sont données à deux religieux qui vont au Pérou au début des années 1530. Donc il est question de étudier... donc troisième ligne, la gobernación, la policía, la hábitos y costumbres, bref, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est recueillir et transférer, évidemment, donc toutes les informations qu'on peut avoir sur les habitants, sur comment est-ce qu'ils vivent, en quoi ils croient, organisation sociale, et ainsi de suite. Pardon. Mais, donc ça c'est les ordres de la couronne, mais avant même que les enquêtes destinées à répondre à ces ordres soient mises en place, il y a toute une série d'informations qui sont recueillies et qui vont circuler très vite. Alors, quand on regarde quelles sont les premières informations qui viennent du Pérou en Europe, donc déjà elles passent par Panama et par le Nicaragua, il y a des informations orales, il y a beaucoup de choses qui circulent oralement. Il y a aussi des choses qui sont publiées très vite, hein, et ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, les deux premiers textes qui sont publiés, donc les Espagnols capturent Atahualpa en novembre 1532, ils l'exécutent en août 1533, le temps de revenir en Espagne, vous voyez, ça prend quand même un petit peu de temps, au mois d'avril 1534, il y a déjà un texte qui est écrit et publié. Et deux mois plus tard, un deuxième en... Donc, conquista et verdadera conquista, donc en réaction au premier. Donc ça, c'est pour l'Espagne. Toutes les deux sont publiées à Séville pour des raisons qui sont assez évidentes. Mais l'information va circuler en Italie, en France, en Allemagne. Là, donc, il y a un texte, et je ne sais pas s'il est vraiment de Venise, en 1534, mais donc, qui est une tradition d'espagnol, mais qui va se diffuser en Italie. Il y a un texte donc en Allemagne, je n'ai pas mis le titre, vous m'en excuserez, et il y a ce texte-là qui paraît à Lyon en 1534, les nouvelles certaines des îles du Pérou. Je vous propose d'en lire un petit extrait. Bon, je ne vais peut-être pas tout lire parce qu'en fait, il n'est pas si petit que ça. Donc, l'auteur raconte que François Pizarre a capturé donc à Tabalica, à Atahualpa, et qu'il envoie son frère, donc Hernando Pizarro, qui s'en alla en quête d'un autre grand seigneur de plus grande puissance et richesse que n'est Atahualpa, lequel on appelle le Cusco, lequel est frère du dit Atahualpa, etc. Et peut-être partie un petit peu plus intéressante, ce qu'on nous dit sur cette région, ce pays. Il habite en une seigneurie et pays le plus riche qui soit en tout le monde. Il y a en ce pays une maison d'oraison, de laquelle les parois sont toutes d'or et d'argent, et la nomme la maison du soleil, laquelle maison garde plusieurs gens de guerre. Ils disent que c'est le pays le plus fertile et paisant qu'on saurait trouver, les chemins sont fort larges et nets, de lieu en lieu il y a des piliers, et un chacun pilier, il y a un indien en poste, attendant aucune nouvelle, lequel, voyant quelqu'un s'en va criant à haute voix, signifiant à l'autre la cause pourquoi il y va, et l'autre lui fait signe qu'il l'a bien entendu. Bon, etc. C'est pas toujours évident à lire, même quand c'est en français. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Quelles sont les premières informations qui arrivent du Pérou? Donc, évidemment, le récit de la capture, de la conquête, de la capture, et déjà de la geste espagnole. Il y a évidemment la richesse du Pérou. Hein. Donc, tout de suite, cette idée d'un pays extrêmement riche va se diffuser à Séville et dans tout le reste de l'Europe et même de l'Amérique. Et très vite, on va assister à une première ruée vers le Pérou depuis Séville, surtout quand le trésor d'Atahualpa va arriver, mais également depuis Saint-Domingue, depuis Panama, où les conditions de vie sont infernales, à tel point que les autorités locales d'Amérique s'inquiètent que les territoires soient dépeuplés parce que tout le monde veut s'en aller au Pérou. Donc voilà. Mais également, c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus, déjà les premières informations sur ce que c'est que l'Empire Inca, sur ce que c'est que le monde préhispanique. Les chemins et deux institutions. Donc là, les piliers, c'est ce qu'en quechua on appelle les tambos. Les Espagnols vont traduire ça par des postes. Poste au sens de la poste, hein, quasiment, c'est-à-dire d'abord une auberge, et dans laquelle, en plus, on va trouver ces personnages, donc deuxième institution, les chasquis, qui sont chargés de transporter l'information, et l'information, vous avez déjà vu une carte de ce qu'est l'Empire Inca, en 3 jours, va de Quito jusqu'à Cusco. Donc premières informations. Dans les années suivantes, je vais passer un petit peu, donc dans les années suivantes, on observe que cette collecte d'informations se poursuit et qu'elle circule, les informations circulent de manière orale ou manuscrite. Il y a très peu de publications, donc évidemment c'est impossible de reconstruire toutes les circulations, d'autant plus quand il s'agit de circulations orales, mais on peut en saisir quelques échos, et je voulais prendre deux exemples. Donc le premier, c'est... non, si, mais bon, on n'a pas besoin de tout lire, c'est Oviedo. On a déjà parlé d'Oviedo juste avant. Oviedo est à Saint-Domingue, d'abord à Panama, ensuite à Saint-Domingue. Il est en contact avec l'Espagne, avec l'Italie, etc. Donc c'est vraiment... C'est quelqu'un qui, en plus, est très curieux. Quand un conquistador qui vient du Pérou passe par Saint-Domingue, évidemment il faut passer par là, il lui pose des questions. Et donc il va récupérer un certain nombre de textes, il va avoir et diffuser dans son œuvre. Donc son œuvre est publiée en 1535 pour la première partie, la deuxième partie est publiée au XIXe siècle, mais bon, elle est écrite entre 1535 et 1557. La partie qui porte sur le Pérou est écrite entre 1535 et 1557. Donc, il va utiliser toute une série de récits, hein, que l'on connaît par ailleurs. Donc, il y a celui de Francisco de Jerez, dont on a déjà parlé. Il y a une lettre d'Hernando Pizarro. Bon, je passe. Mais également, dans un chapitre, donc dans ce chapitre 17 du livre 86, qu'il intitule, donc il dit « A una pepitoria o composta ». Il va faire un mélange, finalement, hein, d'informations qu'il a réussi à recueillir. Donc il va parler de plusieurs parties du Pérou et il va donner, par exemple, certaines informations sur, je me centre sur les Incas, donc sur la ville de Cusco et sur les Incas en eux-mêmes. Donc l'idée qu'il y a un grand seigneur qui est venu à une certaine époque avec certaines personnes que l'on appelle orejones, donc là c'est parce qu'ils ont des bijoux qui leur agrandissent les oreilles, et donc il va expliquer ce que c'est que ces orejones. Il va ensuite dire, donc ce seigneur que l'on appelle l'Inca a peuplé la ville de Cusco, il en a fait une très grande ville, très forte pour y habiter, avec de très grands édifices, et donc évidemment il va décrire les édifices, et notamment, bon, je lis pas tout, mais il va décrire la forteresse de cette ville. Donc énormément d'informations, et donc là il nous dit quelles sont ses sources. Ses sources, ce sont, bon, il cite pas tout le monde, mais il cite en tout cas deux pilotes, Pedro Corso et Juan Cabezas. Bon, peu importe leur nom, mais donc des gens qui sont allés au Pérou, qui ont vu, qui ont transité par Saint-Domingue, et il va les interroger et donc raconter un certain nombre de choses sur le monde préhispanique péruvien. Et ça va évidemment circuler, puisque comme on l'a dit, comme on l'a vu avant, au biais de ton contact avec l'Italie, et notamment avec Pietro Bembo aussi, entre autres personnes. Bon. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus ces informations sont précises et détaillées. Et là, je voulais prendre un deuxième exemple. Bon, on voit rien là-dessus. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal à lire ce document. Mais donc, une lettre qui est à l'Escurial, qui n'a pas de titre. Donc, on la nomme, les historiens l'appellent « lettre sur le gouvernement, les coutumes et les antiques, les anciennes rites du Pérou ». Donc, un texte sans titre, anonyme, sans destinataire, sans date. Pourtant, on peut quand même en faire quelque chose. C'est-à-dire, on sait donc que le. Bon, j'ai analysé un petit peu ça dans ma thèse. Donc, l'auteur est un religieux qui est au Pérou et qui est en train d'évangéliser les Indiens. Il s'adresse à un gentilhomme qui est en Espagne, on ne sait pas qui, mais donc, qui est intéressé par ces questions-là. Et le texte, il date de 1548-1549. Et donc, ce texte, c'est une lettre de 4 pages, hein, c'est conservé à l'Escurial. On a vraiment une description extrêmement complète, même si c'est juste en 4 pages, de ce que c'est que l'Empire Inca, de l'organisation de l'Empire Inca. L'auteur arrive à distinguer 2 périodes, une période pré-Inca où tout n'est que chaos, bon, Beetrias, il va dire, ensuite les Incas qui arrivent et qui civilisent, qui organisent un petit peu tout ça. Donc, il décrit le culte des Incas, hein, le culte du soleil, les rites, les cérémonies qui sont célébrées à Cusco. Il présente les prêtres, également ce qu'il appelle les vírgenes del sol, les vierges du soleil. Bon, c'est aussi une institution préhispanique, ce sont des aclias ou mamacona en quechua, donc ce sont des femmes qui sont préposées au culte du soleil. Il va parler d'autres éléments du culte, donc les huacas, je ne rentre pas dans les détails. Il va présenter le gouvernement temporel, je le cite. L'organisation de l'Empire Inca, c'est une organisation décimale, c'est-à-dire une région qui réunit 10 000 tributaires, puis à l'intérieur 1 000 tributaires, et ainsi de suite. C'est assez compliqué. D'autres institutions comme les miquimaes, c'est-à-dire les déplacements de population que faisaient les Incas, les quipucamayos, donc ça c'est peut-être un petit peu plus connu, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le quipu. Ça c'est un dessin, bon, donc c'est un instrument mnémotechnique qui permettait de conserver aussi bien des chiffres que des dates, ou en tout cas qui, associés à la tradition orale, permettaient de conserver aussi l'histoire. Donc, ce que je veux dire par là, je passe un petit peu, c'est un récit extrêmement détaillé déjà, hein, extrêmement précis sur ce qu'est le fonctionnement de l'Empire Inca. Je voulais prendre encore un exemple, pour ne pas parler que de manuscrits. Il y a une relation manuscrite qui est anonyme, bon, d'après Marcel Bataillon, elle aurait été écrite par un certain Rodrigo Lozano, qui est utilisée par... bon, ça, je passe... Je vais rester là. Qui est utilisée par 2 auteurs qui, eux, vont écrire des histoires du Pérou et des Incas qui vont être publiées, qui sont Francisco López de Gómara, donc, qui écrit une histoire générale des Indes en 1552, et Agustín de Zárate, qui lui publie une histoire plutôt centrée sur le Pérou à Anvers en 1555. Donc, relation manuscrite qui va circuler, qui va être une source commune pour ces 2 œuvres-là, qui sont parmi les rares œuvres qui sont publiées, et donc qui, elles, vont se diffuser, et qui vont diffuser donc les informations sur le Pérou préhispanique. Donc surtout Gomara, il est traduit dans beaucoup de langues européennes, il est diffusé un petit peu partout, et ça va arriver, par exemple, ces 2 œuvres-là vont être traduites, vont être utilisés. Je voulais juste prendre 2 exemples que je vous laisse lire, je passe tout ça. Voilà, par exemple, par André TV. Donc là, je lis à partir du milieu à peu près. Au surplus, ce peuple est fort idolâtre sur tout autre. L'un adore en son particulier ce qui lui plaît. Les pêcheurs adorent un poisson nommé Libouron, Tiburon. Les autres des bêtes, des oiseaux. En général, ils tiennent le soleil en grand dieu, la lune, etc. Donc, le texte porte sur le Brésil hein, plutôt, mais il y a quand même certaines informations sur le Pérou. Là, j'ai pris la traduction de Gomara en français. C'est la source. Circulation encore un petit peu plus au nord, puisque en Flandre, en 1566, un certain Lévinus Apollonius, je ne l'ai pas mis, bon, ça, je passe. Un certain Lévinus Apollonius publie une œuvre qui s'appelle De Peruviae Regiones Inventione. Donc qui porte encore une fois sur l'histoire du Pérou, sur le monde préhispanique, qui en réalité est un emprunt, pour ne pas dire un plagiat, un peu condensé du texte d'Agustín de Zárate. Donc bon, ça pour dire hein, que ces informations, elles vont circuler grâce à ces deux textes-là. Donc toutes ces sources, j'ai dit, elles donnent des informations plus ou moins précises sur le fonctionnement de l'Empire Inca, ses institutions, les guerres entre Huascar et Atahualpa, mais elles ont un point commun, c'est qu'elles n'arrivent pas à aller au-delà du règne de Huayna Capac, qui meurt vers un petit peu avant 1530, voire pour certaines arrivent à aller un petit peu plus loin, mais bon, c'est le règne antérieur, celui de Tupac Yupanqui, qui meurt vers la fin du 15e siècle. C'est-à-dire, elles n'arrivent pas à avoir de profondeur temporelle. Hein. Elles arrivent à donner plein d'informations sur ce que c'est que l'Empire Inca, sur éventuellement les deux Incas avant l'arrivée des Espagnols, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont vécu à l'époque-là, qui sont encore vivants, qu'on peut interroger, qui vont raconter des choses. Pourquoi, si je reprends l'exemple des chemins Incas ou des institutions comme les Tambos, les Chasquis, etc., pourquoi est-ce qu'ils arrivent si facilement à décrire comment ça marche? Tout simplement parce que ça continue à fonctionner. Hein, les Espagnols continuent à utiliser les chemins Incas et les Chasquis, donc les porteurs indigènes, jusqu'aux années 1560 au moins. Donc, c'est particulièrement clair quand on s'intéresse à la question de l'origine des Indiens du Pérou et au nombre et à l'ordre de succession des Incas. Je ne vais pas vous montrer les exemples, vous allez devoir me croire, mais donc tous ces textes que j'ai cités sont extrêmement flous sur ce point-là. Ils vont confondre ce qui en réalité sont deux mythes différents. Donc le mythe d'origine chez les Incas, c'est une divinité qui s'appelle Viracocha, qui sort du lac Titicaca. Et sauf qu'il se trouve qu'il y a un Inca qui s'appelle aussi Viracocha. Donc dans tous ces textes, on va trouver confondus ces deux personnages différents. Et on va dire que le premier Inca qui est sorti du Titicaca s'appelait Viracocha, et ensuite il y a eu tous les autres, ils étaient trois ou quatre, certains arrivent à dire sept, quand en réalité ils sont douze. Donc ces informations-là, cette dimension, cette profondeur temporelle, ils n'arrivent pas à la voir. Parce que ces informations-là, qui vont être les informations stratégiques, elles vont être le fruit d'enquêtes. Et là où je vais peut-être être un petit peu long sur ça, mais je voulais distinguer quand même entre ces informations, un certain nombre d'informations sur le fonctionnement de l'Empire Inca, mais donc qui peuvent être déduites de l'observation ou de certains échanges, et ces informations, donc origine des Indiens, nombre et succession des Incas, qui vont être primordiales et qui vont être le fruit d'enquêtes et donc réservées uniquement à un certain nombre, un petit nombre de personnages. Donc je vais passer un petit peu, j'ai parlé d'enquêtes hein, commanditées par la couronne. Les premières enquêtes, concrètement, commencent comme au Mexique au lendemain de la conquête. C'est-à-dire les premiers qui s'intéressent au fonctionnement plus détaillé de l'Empire Inca, c'est Pissarro, hein, tout simplement parce qu'il a besoin de savoir comment fonctionne le Pérou pour se l'approprier. Il faut répartir les encomiendas entre les conquérants. Puis ça, alors, il a besoin de savoir comment est-ce que ça marchait. Hein. La répartition des terres à l'époque préhispanique, il a besoin de savoir comment ça marche pour distribuer ses encomiendas, notamment à ses frères, à ses alliés. Donc il y a d'autres informations qui apparaissent à cette époque, mais c'est des enquêtes qui sont très fragmentaires. Très fragmentaires, qui sont partielles, je l'ai dit aussi. Et ceux qui vont vraiment commencer à faire des enquêtes systématiques et plus poussées, ça va être les dominicains, hein, les religieux de l'ordre de Saint-Dominique. Et d'ailleurs, au début, Pissarro s'y oppose, parce qu'il fait obstacle, parce qu'il se rend bien compte que ces informations vont finir aux mains de la couronne, et donc qu'il va perdre son monopole pour dominer ce territoire. Donc les enquêtes commencent, j'ai réussi à dater ça à peu près des années 1538-1539. Au début, c'est des enquêtes linguistiques. Hein, pour commencer à interroger tous ces gens, il faut évidemment parler leur langue. Donc d'abord, il y a des religieux, il y a aussi Juan de Betanzos et d'autres personnes qui interviennent, mais donc ils vont tout simplement essayer d'abord de comprendre comment ça marche, c'est-à-dire de faire un lexique, un vocabulaire, si vous préférez, voir comment fonctionne la grammaire, pour commencer à traduire. Traduire quoi ? La doctrine chrétienne, le catéchisme. Donc ils vont traduire un catéchisme, et ensuite il va y avoir d'autres enquêtes. En 1542-1543, donc il y a le gouverneur de l'époque, le licencié Vaca de Castro, qui va commanditer une véritable enquête où il va faire venir ses quipucamayos, donc les préposés aux quipus, qui vont être interrogés pour essayer de connaître ce que j'ai dit, donc l'ordre de succession des Incas, le fonctionnement de la noblesse préhispanique, la répartition des terres, etc. Pourquoi toutes ces informations ? Donc, des informations qui sont le fruit d'une collaboration entre des religieux, des fonctionnaires, les nobles de Cusco, donc les Incas, évidemment, qui sont ceux qui transmettent l'information, et ses interprètes. Et des informations qui sont, comme je l'ai dit au début, qui sont stratégiques. Pourquoi ? Parce que connaître donc le nombre et l'ordre de succession des Incas, connaître quels sont les droits de la noblesse indienne, connaître comment étaient réparties les terres à l'époque préhispanique, connaître les mécanismes du tribut indigène, c'est ce qui va permettre de construire la société coloniale. Hein, c'est les informations dont a besoin l'administration pour gouverner. Connaître les rites et coutumes des Incas, c'est nécessaire pour évangéliser. Connaître comment fonctionnent les cultes indigènes, donc c'est aussi pour construire l'église péruvienne. Donc s'il y a des terres qui appartenaient au soleil, qui étaient allouées au culte du soleil, les religieux vont les réclamer pour les églises. Donc bon, une série d'informations qui sont vraiment nécessaires aussi bien aux fonctionnaires, à l'administration castillane qu'aux religieux, qui vont apparaître en deux temps. Donc il y a cette première enquête qui ne va pas aboutir pour diverses raisons sur lesquelles je passe. Il y a un deuxième moment, donc à la fin des années 1540, où il va y avoir d'autres séries d'enquêtes. Pourquoi est-ce qu'il y a une pause au milieu ? Parce qu'il y a cette rébellion de Gonzalo Pizarro des Encomenderos, et qui va aboutir au début des années 1550 à la rédaction, à la confection des deux premières histoires des Incas, qui sont la Summa Inhalación de los Incas de Juan de Betanzos, donc qui est écrite à la demande du vice-roi de l'époque, qui est le vice-roi Antonio de Mendoza, donc qui venait du Mexique, et une autre œuvre qui est publiée en 1553, celle de Pedro Sieza de León. Enfin, la première partie de cette œuvre est publiée. Sieza de León meurt et ne parvient pas à publier les œuvres suivantes, qui sont celles qui portent sur l'histoire préhispanique et sur les guerres civiles du Pérou, pour dire un processus d'écriture de l'histoire préhispanique qui va prendre une quinzaine d'années à aboutir. Donc ça commence, vous avez suivi, vers 1538, et ça aboutit en 1552. C'est seulement 1552, donc il y a des deux premières histoires. Et j'insiste, ces histoires donc fournissent des instruments, les instruments nécessaires à l'établissement de l'ordre colonial. Donc évidemment, par la suite, ces enquêtes elles vont être poursuivies. On va réussir à collecter plus d'informations, à dater, puisque ces premiers textes, ils vont dire, bon, il y a tant d'Incas, tel Inca est le successeur de tel Inca, mais ils ne vont pas réussir à mettre de date sur ces événements. Un petit peu plus tard, et notamment avec un chroniqueur qui s'appelle Pedro Sarmiento de Gamboa, on va réussir à, donc au début des années 1570, on va dater les événements, et lui, en plus, il va les rattacher à l'histoire universelle, c'est-à-dire à l'histoire biblique. Alors, ces textes-là, maintenant, comment est-ce qu'ils circulent ? Donc, c'est une circulation qui est... ces informations, donc là, je veux dire, comment est-ce qu'elles circulent ? De manière exclusivement manuscrite, et on va voir que c'est une circulation qui est assez difficile. Concrètement, la circulation, elle va être le fruit d'initiatives en grande partie individuelles. Une des personnes qui va contribuer à la circulation de ces informations, ça va être le vice-roi Antonio de Mendoza. Donc, je voulais dire, même s'il ne me reste pas beaucoup de temps, deux ou trois mots. Mendoza, donc, j'ai dit, il est vice-roi du Pérou. D'abord, il est vice-roi du Mexique. Pourquoi est-ce qu'il est envoyé au Pérou ? Parce qu'il a l'expérience, il a été vice-roi du Pérou pendant 15 ans, donc il a l'expérience des terres américaines et on veut quelqu'un qui sache contrôler, qui parvienne à contrôler le Pérou. Mais en plus, c'est une punition. Parce qu'il a voulu perpetuarse en la tierra. Il a voulu, parce qu'il est là avec son fils, il a voulu que son fils devienne vice-roi. Donc il a voulu créer une lignée noble. En Nouvelle-Espagne, évidemment, Charles Quint a refusé. Il a eu 5 ans de guerre civile au Pérou. Il a failli perdre ce territoire. Il ne veut pas que ça se reproduise en Nouvelle-Espagne. Mendoza, il va au Pérou. Et ça fait vraiment un véritable scandale. C'est-à-dire, il hésite. Il hésite à obéir à l'ordre de Charles Quint. Finalement, c'est son frère, un de ses frères, Luis Hurtado de Mendoza, qui est président du Conseil des Indes, qui va lui dire « Tu vas au Pérou. » Et si, parce qu'il est malade. Si tu n'y arrives pas vivant, c'est pas grave, mais il faut que tes os, tous huesos, ils y arrivent. C'est une question d'honneur. Donc, il y va un petit peu à contre-cœur, il y va un petit peu en disgrâce, et il va mourir au bout d'un an, mais en un an, il fait énormément de choses. Il envoie son fils visiter le pays, et il demande à Betances d'écrire cette œuvre, la Summa Inhalación de los Incas. Tout ça très rapidement, puisque derrière il y a une stratégie, donc cette circulation de la Summa Inhalación de los Incas s'inscrit dans une stratégie personnelle. Il s'agit d'envoyer donc son fils, qui s'appelle Don Francisco, à la cour. Au mois de mai 1552, il part pour la cour, en emportant donc la description du territoire qu'il a faite, une peinture, c'est-à-dire un dessin des mines de Potosi, sans doute aussi la Summa Inhalación de los Incas, et il va faire un détour par le Mexique pour emporter un document que d'habitude on n'associe pas trop, ce texte-là. En réalité, c'est un codex de la Clus Badian ou Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, c'est-à-dire un codex, écrit par un Indien, à la demande insistante du fils du vice-roi, Don Francisco de Mendoza, qui porte sur les plantes préhispaniques. Et donc, avec tout ça, Francisco Mendoza arrive en Espagne, devant le prince Philippe, ensuite il va en Flandre, devant Charles Quint, et il présente donc tout ça. Quel est l'objectif ? Prouver la loyauté de la famille Mendoza, prouver le travail accompli par la famille Mendoza pour laver son honneur. Donc là, cette récollection d'informations sur le monde, sur le Pérou préhispanique et sur le Mexique préhispanique aussi. Et là, un but personnel qui est également obtenir des récompenses. Quelle récompense ? La récompense pour Don Francisco de retourner en Nouvelle-Espagne afin de, pourquoi des plantes ? de tenter d'acclimater des plantes asiatiques au Mexique. Je n'ai pas le temps de revenir sur ça, mais donc les Mendoza sont les yeux rivés vers l'Europe, vers le Pérou, mais aussi vers l'Asie. Comme ils n'arrivent pas, ils arrivent à envoyer des expéditions en Asie, mais pas à revenir, puisqu'on ne peut pas rapporter les épices d'Asie, ben on va les implanter au Mexique, hein, et les importer en Europe depuis le Mexique. Donc là, circulation, quand même, dans une stratégie purement qui sert la couronne, évidemment, puisque Mendoza est un loyal serviteur de la couronne, mais qui a aussi un but assez intéressant. Ces informations, elles vont circuler aussi du fait des premiers intéressés, qui sont les nobles indigènes, en l'occurrence les Incas. Les Incas, ou aussi les Espagnols qui sont mariés avec des princesses Incas, au sein d'un document assez particulier qui s'appelle la Information de Méritos y Servicios, c'est-à-dire c'est un dossier, comme son nom l'indique, qui est fait pour présenter ses mérites, ce qu'on a fait pour la couronne, afin d'obtenir des récompenses. Et donc, en 1554-1557, ces informations qui sont réunies au sein des enquêtes que j'évoquais brièvement tout à l'heure, elles sont utilisées par les fils d'Atahualpa, donc du dernier Inca, poussés par un dominicain, Fray Domingo de Santo Tomás, pour demander des récompenses, et concrètement des encomiendas. Et là, quand on s'intéresse à la circulation des connaissances sur le monde indigène, c'est assez intéressant, puisque qu'est-ce qu'ils vont prendre comme argument ? Au Mexique, le fils de Moctezuma, Pedro Moctezuma, a obtenu quelque chose parce qu'il est fils de Moctezuma. Nous, on est fils d'Atahualpa, donc on devrait aussi obtenir quelque chose. Donc vous voyez, les circulations, ce que je veux dire par là, c'est que la circulation se fait vers l'Europe, mais il y a aussi une circulation entre les différents territoires américains de la monarchie catholique. Autre cas, et peut-être que je vais arrêter là-dessus, ces circulations à travers le réseau dominicain, parce que le réseau dominicain est vraiment très intéressant, elles arrivent chez qui ? Chez Las Casas. Hein. Las Casas va obtenir toutes ces informations, et vraiment quand on compare ce que lui écrit dans la Apologética Historia Sumaria, donc qui est de 1561, il a toutes ces informations sur le Pérou préhispanique, que n'ont que Betances, Osiesa et lui, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé soit aux enquêtes directement, soit qui ont été en contact avec ceux qui les ont promus. Et donc lui va présenter les Incas, et il va aller encore plus loin, puisqu'il va interpréter ces données, et là, donc les informations du Pérou, sur le Pérou préhispanique vont être mises au service du projet lascasien, qui est la défense des Indiens. C'est-à-dire ce qu'il va en faire à Las Casas, il va les utiliser pour montrer que les Incas étaient un peuple policé, civilisé, à l'égal des anciens, donc des Grecs et des Latins, et même plus, parce qu'il va dire, les Incas étaient proches du monothéisme. Il va utiliser donc les rites d'origine des Incas pour dire qu'ils croyaient en un dieu unique, sauf qu'ils se sont trompés, ils ont parlé du soleil. Ils ont parlé du soleil, mais ils étaient monothéistes, proto-monothéistes. Donc là, encore une autre circulation manuscrite, mais utilisation différente au sein d'un projet qui n'est pas non plus celui de la monarchie catholique. Et peut-être pour conclure, et qu'il y ait quand même quelques minutes pour éventuellement discuter, et ouvrir un petit peu... Pardon, j'oublie juste une chose. Las Casas, l'Apologética, c'est pas publié, mais ça circule de manière manuscrite, et c'est repris par cet Augustin, Jerónimo Romano, qui écrit dans les Republicas del Mundo, qui sont édités en 1575 et 1595, qui sont des best-sellers. Ça circule partout. Et donc c'est surtout ce texte-là qui va faire circuler les informations sur que ce soit le Pérou ou le Mexique préhispanique. Du coup, quand on est au Mexique, on a besoin de savoir ce qui se passe au Pérou préhispanique. Dans les années 1580, on va lire ça. Et juste pour finir sur une question qui a été un petit peu abordée aussi par Fiona, un petit peu à la fin, qui me paraît intéressante, et pour parler aussi de cette période des années 1560-1570. Donc j'ai dit au début, en 1567, il y a le nouveau président du Conseil des Indes, Juan de Obando, va faire une visita, donc une inspection du Conseil des Indes. Et plus largement, il va y avoir une restructuration de la monarchie catholique. Les années 1567-1568 sont vraiment un moment charnière. Il va promouvoir une série d'ordonnances pour le gouvernement de l'Amérique. Et donc, au cours de son inspection, il va arriver à certaines conclusions, par exemple celle-là, c'est-à-dire que le Conseil des Indes, c'est-à-dire l'organe qui est censé gouverner les Indes, en el dicho consejo no se sabe el sujeto de las dichas Indias. Donc, c'est-à-dire, dans ce Conseil, on ne sait pas ce qui se passe. Le Conseil des Indes ne sait pas ce qui se passe aux Indes et ne connaît pas l'histoire des Indes. Donc, on est quand même en 1570, un constat assez terrible. Ça fait 40 ans qu'on fait des enquêtes et le Conseil des Indes ne connaît absolument rien, peut-être qu'il exagère un peu, sur le fonctionnement de l'Amérique et notamment de l'Amérique préhispanique. Donc, ordonnances qui, comme j'ai dit, vont créer le poste de la charge de cosmographe des Indes. Ça, c'est la citation que j'ai mise au début, mais que j'avais tronquée. Donc là, je rajoute la fin qui m'intéresse. C'est que cette histoire qui doit s'écrire des Indes, il faut qu'elle soit au Conseil des Indes sans qu'on la publie et sans que personne ne puisse la lire, sauf ceux qui seraient approuvés, qui auraient l'ordre, qui auraient le droit de les consulter par le bon vouloir du Conseil. Donc, rétention de l'information, je pense, aussi chez les Espagnols, hein, pas que chez les Portugais. Et donc, là, ces années 1570 aussi, c'est un moment, c'est extrêmement intéressant, c'est un contexte de succès hein, pour Philippe II, période d'expansion, donc 1571, la victoire de Lépante. 1571, c'est aussi la prise de Manille aux Philippines, donc derrière les Philippines, il y a la Chine. C'est le moment où Philippe II commence une série de grands projets. Hein. Il y a l'Atlas d'Ortelius à Anvers, il y a l'Escurial, évidemment, et l'Escurial, c'est la grande bibliothèque qui est censée recevoir tous les savoirs du monde. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les textes de Betance, de Sieyès et d'autres sont copiés et entrent à l'Escurial. Il y a la Bible polyglotte d'Arias Montano, et il y a, pour l'Amérique, mais aussi pour le reste de la monarchie catholique, les enquêtes géographiques. Foisonnement intellectuel, où il y a un véritable appétit, et aussi pour les connaissances sur le monde préhispanique. Donc une phase ascendante qui se poursuit durant toute la décennie, qui culmine avec l'entrée à Lisbonne, hein, donc avec l'union des deux couronnes, avant les désastres qui viennent ensuite. Mais au niveau de la connaissance du monde de l'Amérique préhispanique, une rupture à partir de 1575. Or qu'on est encore dans cette phase ascendante. 1575, c'est la mort de Juan de Obando. Il y a une rupture vraiment radicale dans la politique de Philippe II vis-à-vis des antiquités américaines. Un mouvement de réaction hein, qui fait interdire et saisir la plupart des œuvres. Donc, interdit de publication, les œuvres sont saisies. Donc, les œuvres des franciscains du Mexique et notamment de Sahagún sont saisies. L'œuvre de Zárate, dont j'ai parlé tout à l'heure, est publiée, mais dans une version censurée. C'est-à-dire, les trois chapitres sur le Pérou préhispanique sont censurés. On saisit l'œuvre du médecin dont j'ai parlé tout à l'heure, de Francisco Hernández, et même la description qu'est censé faire le cosmographe officiel, Juan de Velasco, donc ça c'est un petit peu plus tard, c'est les années 1580, donc la géographie et description universelle des Indes, donc ce livre-là, il faut l'écrire, mais il faut qu'il aille dans un carton, dit Philippe, dans un tiroir. Un renversement hein, dans cette politique, comment l'expliquer juste pour finir, parce que le contexte, pour les questions géographiques, c'est parce qu'évidemment, il ne faut pas que ces informations arrive chez les ennemis de la monarchie catholique, concrètement les Anglais et les Hollandais. Les années 1570, c'est aussi le moment où, grâce à des informations espagnoles, Francis Drake franchit le détroit et pille les côtes du Pérou, du Chili jusqu'au Mexique. Un peu plus tard, il y a Raleigh, donc il y a aussi des informations espagnoles qui va aller chercher l'Eldorado. Mais pour les informations spécifiquement sur les mondes préhispaniques, c'est parce que à Lima, 1576-1577, il y a un dominicain qui est brûlé pour hérésie. Hein, Fray Francisco de la Cruz, c'est un procès qui fait énormément de bruit parce qu'il propose de créer une chrétienté alternative, hein, si j'ose dire. Et donc, toutes ces informations sur les mondes préhispaniques, notamment celles qui ont trait à la religion, il faut en réduire la circulation pour éviter les retours à l'idolâtrie. J'aurais pu développer un petit peu, mais pour ouvrir, ces informations, elles sont stratégiques au XVIe siècle. Elles ne le sont plus au bout d'un moment. Hein. Mais au XIXe siècle, j'aurais voulu ouvrir parce que j'ai vu écrire un petit article sur le XIXe siècle récemment. Ces informations-là, elles redeviennent stratégiques au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment des constructions nationales. Que ce soit en Amérique latine, donc les États indépendants vont chercher, récupérer ces informations sur le monde préhispanique pour construire les identités nationales. Et en Espagne, donc c'est le moment où on récupère tous ces textes, c'est pour revendiquer aussi dans une dimension, dans une perspective nationaliste, la geste espagnole, quoi. Donc bon, pour finir sur la dimension stratégique, et désolé si je suis allé un petit peu vite à la fin, mais...